Et on commence avec l'information, avec le journal de Clara Lecoq-Réal. Bonjour Clara.
Bonjour Benoît, bonjour à tous. L'agence de surveillance des frontières européennes est accusée de maltraitance sur des migrants. Trois médias mettent en cause Frontex. Nous y reviendrons dans un instant.
Nous irons ensuite au Cachemire, dont l'autonomie constitutionnelle a été révoquée hier par le gouvernement indien. Sur place, les touristes ont tenté de fuir au plus vite.
La trêve dans le nord-ouest de la Syrie, à Idlib, aura tenu 4 jours à peine. Les frappes aériennes du régime ont repris, sans épargner les civils, vous l'entendrez.
Et puis vous comprendrez pourquoi le procureur de la République de Nice pourrait être prochainement muté. Cela fait suite aux manifestations de Gilets jaunes.
Les accusations sont graves et elles sont portées par 3 médias, le quotidien britannique The Guardian ainsi que les médias allemands Corrective et ARD. Accusations à l'encontre de Frontex, l'agence chargée de surveiller les frontières extérieures de l'Union européenne. Selon l'enquête, certains fonctionnaires de Frontex maltraitent les migrants qui tentent de rejoindre l'Europe. La chaîne allemande ARD diffuse ce soir son reportage, mais quelques extraits ont déjà été publiés, David Philippot.
Les journalistes ont consulté des centaines de rapports internes de l'agence Frontex.
Dont des plaintes contre des douaniers nationaux de Grèce ou de Hongrie, utilisation excessive de la force, coups portés avec des barbelés, mauvais traitements, chasse contre des réfugiés avec des chiens.
Des pratiques que Frontex ne parvient pas à enrayer, le porte-parole de l'agence, Christophe Borowski.
Le mécanisme prévu, c'est que nous entrons en contact avec l'État concerné pour discuter des cas en question. Il y a des conséquences potentielles. Nous pourrions stopper si nécessaire.
Vous l'avez déjà fait ?
Non.
Les investigations des 3 médias démontrent que les agents de Frontex enfreignent eux-mêmes les règles européennes en expulsant par exemple des mineurs, accusation catégoriquement démentie par l'agence basée à Varsovie.
Les questions liées aux questions migratoires encore et le gouvernement italien qui adopte un nouveau décret qui cible les navires humanitaires. Le texte a été mis au point par le ministre de l'Intérieur Matteo Salvini, patron de la Ligue d'extrême droite. Il fixe désormais à 1 million d'euros l'amende maximale dont sont passibles les navires qui entrent dans les eaux territoriales italiennes. Le gouvernement indien a supprimé hier le statut d'autonomie du Cachemire. Le Pakistan voisin y voit une manœuvre illégale de l'Inde pour s'approprier le territoire. Situation explosive donc dans la région. Alors New Delhi s'y était préparé. Pour preuve, juste avant l'annonce, les communications ont été coupées dans l'état de Jammu et Cachemire, près de l'Himalaya, sous l'œil affolé des touristes, Juliette Jay.
Des milliers de touristes se sont précipités à l'aéroport de Srinagar, mais aussi des centaines de milliers d'hindous qui ont vu leur pèlerinage au Cachemire annulé. Nathan Dixit, employé d'une agence de voyage, y était il y a 3 jours.
C'est la saison des pèlerinages à Srinagar, donc beaucoup de touristes étaient dans la ville. Mais l'avion est quasiment le seul moyen de quitter cette zone. Donc quand le gouvernement a demandé aux touristes de partir, c'était le rush à l'aéroport.
La situation s'est encore empirée avant-hier soir avec la mise en place d'un couvre-feu. Imani Malhotra faisait un trek en zone rurale.
Quand le couvre-feu a été mis en place, la connexion Internet a été coupée, donc on ne pouvait pas imprimer le billet d'avion qu'on venait d'acheter. Et il n'y avait plus de taxi dehors. Quand on est arrivé à Srinagar, tout le monde était confus. On demandait aux touristes de partir et aux magasins de fermer.
Pourtant, elle raconte qu'elle n'a vu aucun heurt avec la police avant de quitter le territoire hier matin. Les autorités indiennes ont agi en amont, en essayant d'enrayer toute possibilité de révolte, bien consciente que ce changement unilatéral de statut du Cachemire raviverait les tensions avec le Pakistan.
Nous évoquions ici même vendredi dernier la trêve conclue en Syrie dans la région d'Idlib. Elle aura duré moins de 4 jours. Hier, Damas et son allié Moscou ont repris leur bombardement contre la province. Ils accusent les djihadistes et les rebelles de l'opposition d'avoir ciblé une base russe. Dans le même temps, pourtant, ces frappes aériennes du régime n'ont pas épargné les civils, leur Stéphane.
Certains étaient venus chercher leurs affaires, d'autres espéraient retrouver un abri après des semaines de déplacement dans le nord de la province d'Idlib, près de la frontière turque. Les civils revenus au cours des derniers jours suite au cessez-le-feu dans le sud de cette région, près de la ligne de front, ont été pris au piège. Les raids aériens des armées russes et syriennes ont repris. Selon plusieurs activistes pro-opposition, les bombardements se sont concentrés hier sur la ville de Khan Cheikhoun, déjà durement touchée lors des 3 mois d'offensive qui ont précédé le bref répit. Au cours de ce cessez-le-feu éclair, des tirs croisés s'étaient poursuivis par intermittence. Le camp pro-Damas continue de réclamer le retrait des combattants de la zone tampon, celle qui sépare la province d'Idlib et les zones attenantes sous contrôle de djihadistes et de rebelles des territoires tenus par le régime. Mais ce retrait a peu de chances d'advenir. Le chef du groupe djihadiste Hayat Tahrir al-Sham l'a d'ailleurs exclu. Ce qui se joue en partie à Idlib, c'est une lutte d'influence entre la Turquie et la Russie, deux poids lourds dans le conflit syrien. Le sort des quelques 3 millions de civils du nord-ouest du pays dépend tragiquement de tractations politiques entre puissances étrangères. Des civils qui n'ont nulle part où aller. Hier, des activistes syriens relayaient abondamment sur les réseaux sociaux la photographie d'un jeune homme présenté comme un réfugié de la région d'Alep, expulsé le mois dernier de Turquie et tué en tentant de franchir la frontière.
Alors Stéphane, dans la région pour France Culture. Et de 6 projectiles ont été lancés par la Corée du Nord ces deux dernières semaines. Les deux derniers tirs datent d'hier, depuis la côte est de la péninsule. Pyongyang veut toujours mettre en garde son voisin du Sud et les États-Unis contre des exercices militaires dans la région. Ces exercices militaires ont commencé pourtant hier. Donald Trump se rendra demain au Texas, à El Paso, lieu d'une des deux fusillades qui ont endeuillé les États-Unis ce week-end. 31 personnes ont été tuées, dont 22 à El Paso. Le débat sur l'encadrement de la vente d'armes à feu aux États-Unis n'a pas été évoqué par le président hier, malgré les nombreuses critiques à son égard. Hier, en revanche, le serveur Cloudflare a annoncé qu'il cesserait d'héberger le site américain utilisé par des tireurs, par des tueurs. Ce site s'appelle 8chan. C'est dessus que le meurtrier de Christchurch en Nouvelle-Zélande avait publié son manifeste. C'est aussi dessus que le tireur de Californie avait publié un document en avril dernier avant d'attaquer une synagogue. Idem donc la semaine dernière avant la fusillade à El Paso. Le serveur Cloudflare se désolidarise de ce site, Loïc Piala.
Cloudflare, une société installée à San Francisco, protège 19 millions de sites internet de cyberattaques, et cela indépendamment de leur contenu. Fervent défenseur de la liberté d'expression, Matthew Prince, le patron de Cloudflare, estime qu'il n'a pas les censurer. Mais 8chan, en refusant de modérer sa communauté remplie de haine, a causé de multiples morts, justifie-t-il dans un message posté sur la toile. À l'origine, destiné à héberger des discussions sans modération sur les jeux vidéo, 8chan est vite devenu le rendez-vous des extrémistes et un terreau de radicalisation. Même son créateur a pris ses distances en 2015 et appelle depuis à sa fermeture. Son successeur ne souffre pas de ce genre d'état d'âme, et si 8chan ne bénéficie plus de la protection de Cloudflare, il en trouvera sans doute chez un concurrent. Malheureusement, la décision que nous avons prise ne réglera pas le problème de la haine sur Internet. Ça n'empêchera probablement pas non plus 8chan de rester sur la toile, mais c'était la bonne chose à faire, explique Matthew Prince.
Allô, équipier là depuis Los Angeles.
7h08 sur France Culture, la suite du journal de Clara Lecoq-Réal. Le procureur de la République de Nice pourrait être prochainement muté.
Ah oui, le ministère de la Justice a effectivement proposé sa mutation au poste d'avocat général auprès de la Cour d'appel de Lyon. Il s'agit d'une rétrogradation puisqu'il ne serait plus à la tête d'un parquet mais soumis aux ordres d'un procureur général. Jean-Michel Prêtre semble ainsi payer sa gestion de l'affaire Geneviève Le Guay dont vous nous rappelez les faits ce matin, Antoine Marette.
Le 23 mars dernier, une cinquantaine de gilets jaunes décident de braver l'interdiction de manifester place Garibaldi à Nice. La foule est calme, mais les policiers chargent, contrairement aux gendarmes. Geneviève Le Guay, 73 ans, est blessée. Une enquête pour violence est ouverte. Elle vise un policier qui est accusé d'avoir fait chuter la septuagénaire, lui provoquant un traumatisme crânien. Deux jours après les faits, Emmanuel Macron suscite la polémique en affirmant « Quand on est fragile, qu'on peut se faire bousculer, on ne se rend pas dans des lieux qui sont définis comme interdits ». Il ajoute que Geneviève Le Guay n'a pas été en contact avec les forces de l'ordre. Le chef de l'État dédouane les policiers et le procureur de Nice lui emboîte le pas affirmant que Geneviève Le Guay n'a pas été touchée par les forces de sécurité. Au cours d'une audition devant sa hiérarchie, Jean-Michel Prêtre reconnaît avoir menti pour ne pas embarrasser Emmanuel Macron. Mais les reproches contre le procureur de Nice ne s'arrêtent pas là. L'avocat général évoque un possible conflit d'intérêts. Jean-Michel Prêtre a confié l'enquête à la Sûreté départementale alors que la chef de service avait elle-même participé à l'opération de maintien de l'ordre et qu'elle est très proche du commissaire chargé de cette opération. D'où la demande de dépaysement de l'enquête à Lyon.
La préfecture de Côte d'Or renforce des mesures de restriction d'eau dans le département à cause d'une sécheresse très marquée, sécheresse qui touche notamment les viticulteurs. Vous les entendrez à 7h30 lors du prochain point sur l'information. Mais à 7h10, il est temps pour moi de vous donner quelques précisions de météo. Le temps qui va soulager aujourd'hui quelques agriculteurs au nord de la Loire, puisque la pluie est annoncée par Météo France, des orages également sur l'Auvergne-Rhône-Alpes. Du soleil en revanche sur le sud avec 18 degrés à Brest ce matin, 22 à Paris, 29 à Marseille.